reproduire à petit mois de temps une analyse difficile et sans très vite de l'histoire, dans laquelle on affirme que l'armée européenne du président colombien pourrait légitimer la légalisation du paramilitarisme. La tournée du président Uribe Vélez en Europe est arrivée déjà marquée de plusieurs événements qui nous ont permis d'apprendre le type de politique qu'il a dénommé de sécurité démocratique. Cette politique affecte la sécurité interne colombienne, le traitement de la guerre civile, le problème du narcotrafic et des négociations de paix dans le but de trouver une issue au conflit. Ce qui est sûr, c'est que le président Uribe Vélez a instauré une politique d'état d'exception, laquelle est en accord avec la traditionnelle absence d'état de droit en Colombie. Il suffit de se souvenir, malgré son triste record de violation des droits de l'homme, que le seul président de l'histoire colombienne qui n'a pas utilisé l'état d'exception est le président Pascal. Et ceci tout au long de plus d'un siècle d'histoire colombienne. C'est cet aspect de la politique interne colombienne qui, après les attentats du 11 septembre, lui a permis de mieux s'accorder avec la politique de Bush, dont le département d'État a certifié que le gouvernement Uribe remplit tous les standards de protection des droits humains. On peut en dire de même de la politique de l'incombustible de fer en Grande-Bretagne, qui a envoyé des assesseurs de corps spéciaux en Colombie et aussi en rapport avec l'appui inconditionnel du ministère espagnol des Affaires étrangères. Pour ce dernier cas, il faut dire qu'il compte sur le soutien depuis l'époque de sa candidature au gouvernement régional d'Antioquia. Cette forteresse que Pato Santos considère comme une œuvre maîtresse, nom de la conjoncture économique internationale, et bien de ses élaborations théoriques, est totalement erronée dans son élaboration. En plus de violer les droits humains et les conventions interaméricaines et internationales des droits humains, Pato Santos a procédé son fait spirituel en organisant son voyage sur les deux continents, a mené sa mission à de tels extrêmes qu'il en est arrivé à sélectionner le plus grand passage colombien à Madrid, que les organismes de droits humains pourraient se réunir avec lui de vélo. En d'autres termes, il a utilisé la cooptation plus ou moins masquée lors de réunions confidentielles pour arriver à un consensus sur les critiques dans une sorte d'agenda occulte des droits humains. Suivant toujours la méthode colombienne, ils se sont servis du prestigieux et objectif journal El Tiempo pour tenter de criminaliser l'action des organismes de droits humains de la dictature belge, qui obstinément défendent les droits humains en Colombie et qui, bien évidemment, n'entrent pas dans l'agenda occulte. Pour les lecteurs non avertis, s'il y en a, il me rappellera que Pato Santos est un membre de la famille propriétaire de l'Union. Ce mécanisme de criminalisation des organismes de droits humains a été utilisé de manière permanente et massive par la stratégie de la sécurité démocratique. Et pour cela, il n'a pas hésité à utiliser tous les ressources possibles, aussi les causes d'incrimination, les arrestations arbitraires, assassinats, menaces, et bien sûr l'élimination de toute possibilité de finance de ce type d'organisme. De ce fait, la quasi-entièreté de la crise de financement est passée aux mains gracieusement de l'organisme. À cette politique, n'a pas été totalement étrangère le financement, grâce à l'argent américain de 1990, la plus importante campagne d'image de ces dernières années a pu avoir le projet politique en totale impunité. Seul le groupe Condon a utilisé des ressources de taux de 4 millions de dollars pour l'image du ministère de l'État colombien. Le reste du financement des opérations secrètes de l'armée colombienne, qui ont été menées à travers la création du paramilitarisme, s'obtiennent par le narcotrafic. Ceci a été clairement démontré par la police italienne, qui, pour faire front à une avalanche de cocaïne et d'héroïne colombienne, avait décidé d'enfoncer la famille de la mafia calabraise, connue sous le nom de Ndrangheta, un groupe criminel mafieux dont la cruauté surpasse celle de la plus connue mafia sicilienne. La police italienne a sélectionné la famille du nom Mantillo et à laquelle appartenait le chef paramilitaire Salvatore Mantillo. On soulignera qu'une des formes préférées d'assassinat de Barbecue, le dépeçage d'agriculteurs vivants à l'aide de l'autoroute, est aussi une des méthodes préférées de Ndrangheta. Souvenons-nous encore que Mantillo était aussi chargé de mener à terme le massacre de la Sondale à Pesce. Une commande qu'il avait reçue de la part de la famille de l'ancien ambassadeur devant l'Union européenne, Carlos Arturo Marulanda, qui a le mérite d'être le premier ambassadeur auquel le Parlement européen a demandé la destitution. Puisque l'ancien ambassadeur a résidé clandestinement à Madrid sous la protection du gouvernement espagnol, jusqu'à ce que, au moyen de toute une de Jésus, tout ce qu'on vit en Colombie, bien évidemment, c'est tout le temps après Renaud et Gassin. Parmi les objectifs essentiels de la tournée européenne de Pakistan, de son chef Alvaro Uribe, se trouve la recherche de soutien pour la légalisation des paramilitaires aux ordres de Salvatore Mancuso et Carlos Castaño. C'est cette légalisation que la théorie de sécurité démocratique nomme projet d'alternativité pénale. Ce projet d'alternativité pénale vient clairement le pacte de Saint-Côté du Costa Rica, la doctrine de la Commission et de la Cour interaméricaine, le pacte et les conventions du système des Nations Unies et même les conventions de Genève de 1949, considérées comme étant le minimum applicable et confirmé. C'est ainsi que la diplomatie du livre de l'Est a eu recours à un autre expert de l'état d'exception, M. César Gaviria, président colombien, qui en plus d'être le premier à utiliser par voie légale les techniques du paramilitarisme, qui demeure de gouverner la quasi-entièreté de son mandat au moyen de décrets d'exception. L'état de droit n'ayant duré seulement que les 4 premiers jours de son mandat. M. César Gaviria a laissé avec fourberie tout le système interaméricain hors jeu en décidant d'aider à la vérification de la démobilisation des paramilitaires en Colombie. Et là, il a commencé à mettre en œuvre l'instrumentalisation paralégale qui fut utilisée à la fin du conflit des années 80 en Amérique centrale et qui donna lieu au système d'impunité au Guatemala, au Salvador, au Nicaragua, au Chili et en Argentine. Ce système d'impunité, après presque 30 ans, a démontré leur totale inviabilité économique, sociale et juridique. L'arrestation d'Auguste Pinochet à Londres en est l'exemple le plus éloquent. L'ingénierie sociale et légale de ce système d'impunité de base dans l'utilisation et l'accumulation de l'égalité laisse hors d'usage tous les instruments du droit international et par conséquent les obligations déléguées de ceci pour les États, laissant en totale impunité et attribuant l'immunité à tous les auteurs de droit crimes contre l'humanité. Ce que le système de sécurité démocratique veut réellement, c'est éliminer l'état de droit et l'entièreté des droits civils. Pour cela, il suffit de dire qu'une organisation mafieuse et criminelle devient une organisation légale et en plus avec une représentation parlementaire. C'est pour toutes ces raisons que nous soutenons tous ceux qui s'opposent à la présence du Livre de l'Est en Europe et félicitons à l'Union européenne qu'elle utilise les mécanismes du système international des droits humains pour mesurer la politique nécessaire d'appui à un procès de paix qui en finisse définitivement avec une guerre sanglante de plus de 40 ans. Pour une paix qui garantisse le droit à la vérité, la justice et la réparation des victimes.
Vous venez d'entendre une continuité de l'équipe Histoire vers la tournée européenne du président colombien et son projet de légalisation des paramilitarismes. Cette information est distribuée dans les studios de Radio Histoire à Madrid, Espagne, le 27 février 2004.